Moi, j'avais une question pour toi. C'est durant cette bagarre-là, si on veut, appelons ça comme ça, cet affrontement-là, est-ce qu'il y a des thèmes en particulier sur lesquels tu as senti qu'il y avait une résistance très forte de la part de tes directeurs de thèse? Autrement dit, quand tu commençais à remettre en question cet aspect-là, là, la panique pognait ou l'agression, l'agressivité montait?
Juste le fait de vouloir élargir la définition de la religion au-delà là, de ce qui est attribué de façon commune. Là, par exemple, en général, c'est les vieilles définitions qui ont été érigées au 19e siècle et puis qui, en fait, sont encore très largement diffusées. C'était l'idée que la religion vise, par exemple, le surnaturel, tout le discours sur le surnaturel, ou encore la religion, ça vise... ce qui est des divinités, un dieu, là, par exemple.
Je t'arrête tout de suite. Surnaturel, pour eux autres, ça veut dire connerie. Surnaturel, ça veut dire ça n'existe pas.
Oui, c'est ça. C'est tout ce qui est en dehors, qui n'est pas accessible à l'emprise de la science. Là, qu'on ne peut pas photographier, on ne peut pas mettre de thermomètre dans la bouche là, d'un fantôme. Là, on ne peut pas vérifier quelle température du corps que le fantôme peut avoir. Tout ça, c'est des trucs non empiriques. Et donc, ça relève un peu de l'irrationnel, et puis, etc. Enfin, il y a tous ces préjugés-là, là, du siècle des Lumières, là, et puis, qui sont encore très largement diffusés. Sauf qu'à notre époque postmoderne, il y a un autre aspect, c'est que la religion est très fertile sur le plan culturel. Ça fait qu'il y a la vision du monde moderne, là, l'humanisme et tout ça, est très pauvre. Bon, ça donne un discours très très dur, une façon de voir le monde vient de nulle part, ça s'en va nulle part. Fait que c'est un discours qui est un peu déprimant. Fait que sur le plan là, du discours postmoderne, on récupère là, de la symbolique, on récupère des trucs, toutes sortes de choses sur le plan de la symbolique religieuse et puis la culture religieuse et des choses comme ça, parce que c'est riche et puis ça donne un peu, il y a une certaine valeur sentimentale, même pour ceux qui ont rejeté la cosmologie qui fondait tous ces symboles-là, les gens sentent un peu de façon plus ou moins implicite que cette vision du monde est plus riche, qui donne plus de sens à l'existence humaine. Donc, on va récupérer des trucs de façon comme Madonna là, qui va porter une croix dans le cou et puis pourtant, elle a une conduite qui est bien souvent complètement en contradiction avec des valeurs judéo-chrétiennes. Ben là, récemment, là, c'est la cabale là, qui l'intéresse. Et puis bon, c'est ça. Ça, c'est très postmoderne. On prend les gens construisent leur vision du monde un peu comme quand on va au restaurant, un restaurant buffet, on prend notre cabaret. Et on passe devant, il y a des plateaux des plats de nourriture, et puis ce soir, on se dit, ah, un peu de sushi, ouais, ça serait intéressant. Et puis, peut-être des ribs, un peu de barbecue, ah, je vais prendre, puis quelque chose, un truc thaï, ça serait le fun aussi avec ça. Et puis, ah, j'ai de la place encore dans mon assiette, peut-être ça, je pourrais mettre un peu, là, un souvlaki grec, par exemple. Et puis, les gens, sur le marché de la religion, les gens fonctionnent un peu sur le même principe. On prend un peu des présupposés, un peu à gauche et à droite, pour se construire la religion. On va prendre, par exemple, un petit peu là, des concepts un peu de zen, un peu de fusheng pour faire la disposition des meubles dans la maison. On va prendre,
un dream catcher
dans son auto pour un fétiche très postmoderne plutôt qu'une statue de la Vierge dans l'auto, là, comme on pouvait avoir dans les milieux catholiques. Et on veut meubler son intérieur et on veut meubler aussi son extérieur avec toutes sortes de trucs de ce genre-là. Ça fait qu'on... Je sais pas si on peut revenir à la thèse, là, les conflits et tout ça. Fait que là, on élargissait tranquillement là, la définition de la religion et puis ça amenait un certain malaise parce que, bon... Ça atteint les gens sur le plan personnel. Et finalement, parce que l'orgueil un peu finalement là, du moderne, là, des gens qui sont disciples, qui sont un peu influencés dans leur pensée par l'héritage du siècle des Lumières, l'orgueil du moderne, c'est qu'il n'a pas de religion. Il est au-dessus de ça. C'est la superstition religieuse, c'est pour les gens un peu irrationnels, les gens qui ont besoin d'une béquille. Mais finalement, avec une définition élargie, et puis il y a plusieurs anthropologues, finalement, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui se rendent compte que la religion joue un rôle important, et puis la question de donner un sens à l'existence, il n'y a personne qui échappe à ça. Ça fait que le fait d'élargir puis de voir ça sur le plan personnel, ça déstabilise. Les gens, finalement, se voient obligés de se remettre en question puis dire, bon, j'ai une conception religieuse, moi aussi. Quelle est-elle? Quelle est la cosmologie sur laquelle je fonde ma façon de voir le monde? Quels sont les présupposés qui me permettent de décider c'est quoi le bien et le mal? Comment je vais élever mes enfants? D'où je vais prendre ces concepts-là pour leur dire, oui, il faut faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que ça fait partie de la réalité humaine. Il n'y a personne qui peut éviter ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'institution scolaire qui peut se permettre que les élèves se comportent de n'importe quelle manière. C'est d'ailleurs aussi le rôle privilégié des écoles primaires de former les étudiants et leur dire plus ou moins implicitement c'est quoi le bien et le mal. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ben, tout ça, c'est des questions qui sont liées à la cosmologie. Et on ne peut pas éviter d'y faire face. On dit qu'on, par exemple, surtout dans nos milieux francophones, on dit qu'on privilégie des écoles laïques. Mais finalement, là, c'est un non-sens. Parce que on ne peut pas faire abstraction de la question religieuse. C'est implicite. Ça fait partie intégrante de, finalement, le sens de ces institutions-là. De dire, oui, il y a des comportements qu'on privilégie. Et il y a d'autres comportements qu'on veut mettre de côté. La violence, c'est pas bien. Et le partage, c'est bien. Mais
autrement dit, tu veux dire que le rejet de la violence, la valorisation du partage, c'est basé sur des choix de cosmogonie, de vision du monde.
Oui, c'est ça. C'est que il faut justifier. On s'est habitué un peu à l'Occident de voir. Pendant très longtemps, l'Occident a été dominé par la vision du monde judéo-chrétienne. Donc, on prenait pour acquis, sur le plan juridique, sur le plan éducationnel, que ce qui était enseigné, les valeurs qui dominaient, étaient des valeurs judéo-chrétiennes. Et puis, ces institutions-là avaient un genre de prestige qui faisait que on avait une certaine indépendance, tout en supposant toujours que c'était des valeurs là, qui étaient... Mais là, évidemment, on a pris ses distances face à la vision du monde judéo-chrétienne. Et puis, mais on n'a pas rendu explicite à quelle cosmologie on va puiser ces valeurs-là. Et puis, la cohérence, finalement, et souvent nous échappe là, dans ce domaine-là. La transparence, surtout, là, finalement, on va dire que, bon, par exemple, la violence, c'est pas bien. Mais comment justifier ça? Il faut pouvoir aller sur le plan de la cosmologie puis dire pourquoi la violence, c'est pas bien.
C'est drôle parce que on est à deux jours, je pense, deux jours après la remise en liberté de Carla Molka. OK? Puis justement, c'est tout le concept de la violence qui est brassé par la polémique qui est autour de son. Les oui. opinions qu'on entend à propos oui. de ça. Dans le fond, reflète toute une conception de la gravité d'un crime violent. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Pourquoi ça serait? Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui a fait ça? Est-ce que quelqu'un... Puis dans le fond, il y a toute une remise en question aussi de la validité de la psychiatrie, de la psychologie, parce que oui. elle aurait évidemment dû suivre des traitements psychiatriques, supposément en institution pénitentiaire. Puis il y en a qui vont jusqu'à dire, écoute, je ne laisserai pas mes enfants près d'elle, peu importe entre les mains qui va avoir été traité. Comment tu vois ça? Comment tu vois la réaction des gens par rapport à ça? Comment tu vois la réaction des institutions, des avocats qui défendent le droit de Carla Molka d'avoir sa vie privée, d'avoir une autre chance, peu importe. Comment tu interprètes ça par rapport au concept de violence et de vision du monde?
C'est vrai qu'on joue avec des concepts. Là, et puis, c'est ça, il y a un genre de bagage. Là, en Occident, il y a un bagage... culturel judéo-chrétien qui traîne encore, malgré qu'on se dit une société moderne ou encore postmoderne selon le cas, là, selon les institutions qu'on regarde ou les individus aussi. Là. Mais pour l'interaction entre les individus, justement, c'est nécessaire. Chaque société a besoin de repères. Sinon, tout est permis, comme disait Dostoïevski. tout serait permis s'il n'y a pas de moralité. Mais la question de la moralité, il faut regarder chaque système de croyance ou de chaque religion doit être examiné de manière critique pour voir si elle peut justifier ses appels à l'éthique, à dire, bon, ben, de faire des classements puis dire, ça c'est bien, ça c'est mal. Et il faut pouvoir rendre ces jugements-là de façon cohérente. Mais en Occident, on prend un peu pour acquis, souvent dans les médias et puis dans nos institutions là, modernes, que l'éthique, ça vient de quelque part. C'est quelque chose qui existe en soi. Sur le plan les évolutionnistes vont nous dire peut-être...
L'éthique n'a ni commencement ni fin.
Oui, c'est ça. C'est un peu une invocation un peu magique là, de dire que l'homme est un animal éthique. Et ça, c'est un facteur, c'est dû à la sélection naturelle et puis...
La sélection naturelle, c'est pas mal éthique, oui.
C'est ça. La sélection naturelle, en fait, ça explique tout et rien. Là. La sélection naturelle peut être expliquée pour servir aussi pour expliquer le comportement de Pol Pot, d'Hitler, de Staline. C'est ça. Là. En fait, là, si quelqu'un veut dominer, là, on peut... C'est ça. Là. Ça fait que le... Il y a un genre de
donc, ça pourrait justifier le comportement de Carla Malka, ultimement.
Oui, c'est ça. Mais sauf que il y a un aspect marketing dans ça qui joue aussi. Les idéologies qui dominent actuellement en Occident doivent toujours garder un peu à l'esprit, un peu... En fait, il y a un choc au 20e siècle. Là où le 20e siècle, au début du 20e siècle, les idéologies matérialistes était en montante et puis tentait de dominer toutes les grandes institutions en Occident. Et puis, pendant cette période-là, on a eu la surprise, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Si on retourne, mettons, au 19e siècle, la science et puis la raison devaient nous conduire au progrès, à l'utopie, au bonheur de tous. Et puis, la Première Guerre mondiale était un choc épouvantable. Et puis la Deuxième Guerre mondiale encore plus, avec les camps de concentration, les massacres, les génocides. C'était des choses qui étaient que les gens, jusqu'à ce moment-là, pouvaient pas imaginer des trucs à des échelles semblables. Et puis on a vu, comme il y a l'expression anglaise, le « man's inhumanity to man ». Finalement, on a pu voir le potentiel maléfique de l'humain. Et... Il fallait en rendre compte sur le plan cosmologique. Donc, sur le plan du marketing, bon, on a attribué toutes ces choses-là à des abus de la cosmologie moderne, à des abus, par exemple, dans le cas du nazisme, à des abus du darwinisme. Ça fait que le terme abus est utilisé d'une façon très précise pour repousser l'utilisation, même si c'était cohérent par les nazis, de la théorie de l'évolution, qui, eux, justement, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est d'intégrer tout le comportement humain et d'expliquer et d'agir sur le comportement humain en termes de la cosmologie matérialiste, Darwin nous avait fournie.
Il voulait créer une société cohérente. Le Reich de Milan, ça aurait été une société cohérente. Alors, c'est ça. Cohérente avec les... connaissance, entre guillemets, de l'époque.
C'est ça, selon la cosmologie qu'eux y avaient.
Les philosophes comme Nietzsche, la biologie et le modèle évolutionniste, ouais. Les avancées de la science. Le
concept de race inférieure aussi qui dérivait. Évidemment, là, les préjugés racistes là, existaient avant le nazisme, mais
Ou en particulier l'antisémitisme.
Là, oui, l'antisémitisme en particulier, là, c'est des choses qui existent de façon millénaire, même avant. Bon, beaucoup de gens vont attribuer ça strictement à l'Église chrétienne, là, entre autres. Là. Mais les préjugés antisémites existaient avant. Les Romains ont persécuté les Juifs même avant que l'époque chrétienne.
Mais dans le cas d'Hitler, là, sans être un expert, là, je veux dire, je sais que j'ai lu que... C'est parce que, en tout cas, c'était très clair pour Hitler que les Juifs avaient un pouvoir financier et social très important. Puis dans un point de vue évolutionniste, où il y a l'affrontement des dominants pour qu'il y en ait un seul qui survive, les Sémites, c'était pas juste une race inférieure, c'était un compétiteur de grande taille aussi. Il fallait compétitionner le pouvoir des banques qui assassinaient progressivement l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Les Juifs, c'est aussi des familles très connues, là, des grandes institutions bancaires, etc. Mm-hmm. etc. Là, faut pas, faut pas. Donc, en tout cas, d'un point de vue strictement de survivance du plus fort, il y avait une logique là-dedans, c'était cohérent. Donc, ouais. En tout cas, moi, je pense, j'ai ouais. l'impression, je sais pas ouais. ce que tu en penses.
Il y a d'autres aspects aussi, c'est que le rôle des peuples marginalisés, comme soit les Juifs en Europe, ou encore, par exemple, celle des chrétiens, par exemple, dans l'Empire ottoman, c'était des peuples marginalisés qui avaient un statut très précis. Mais à partir du siècle des Lumières et puis de la Réforme aussi, c'est la place des peuples marginalisés comme ça devenait de plus en plus floue. Et puis, il y avait des possibilités de sortir du ghetto qui existait jusqu'à cette époque-là. Et puis, les nazis, finalement, ont repris les concepts et pouvoir remettre les Juifs à leur place, mais en utilisant un concept racial. C'est justement ce que l'originalité du nazisme, c'était de prendre un concept darwinien de la race et de l'appliquer aux Juifs, d'en faire une race. Par contre, ce qui, pendant tout, malgré le Moyen Âge, évidemment, les Juifs ont été marginalisés de toutes sortes de manières, et puis, mais il y avait toujours la possibilité de changer de religion, de convertir. Mais dans le cas du nazisme, c'était une question de la race, ce qui faisait que la définition était biologique et c'était impossible de se convertir. Il y avait point de salut. Hors de la, si on peut reprendre une église commune au Québec, hors de l'église, point de salut, mais là, ce serait hors de la race, point de salut. Il n'y avait pas de possibilité de conversion, donc les Juifs, fallait les éliminer totalement.
Autrement dit, avant le nazisme, un Juif, c'était un homme qui vivait une erreur, idéologique, si on veut, en tout cas, pour certains. Puis dans le nazisme, c'était pas un homme.
Ouais. C'était un peu ça. Non, c'était vu comme un parasite. Hitler en parle dans le Mein Kampf. Hitler parle carrément des Juifs en termes de parasites. Et puis, on sait très bien ce qu'on fait des parasites là, qui sont indésirables. On les élimine. Et puis, Hitler a été cohérent avec sa cosmologie en traitant les Juifs de cette manière-là. Et puis, évidemment, pour éviter de poser ces questions-là, on fait de Hitler un monstre. On en fait un personnage maléfique, mais tout ça pour éviter d'examiner, parce que bien souvent les élites qui nous entourent partagent finalement la même cosmologie qu'Hitler. Et puis plutôt que poser des questions sérieuses sur la cosmologie qui aurait pu et sur les conséquences de cette cosmologie sur l'interaction d'Hitler avec les races qui nous entouraient, pas juste les Juifs, les homosexuels, les Gitans et puis d'autres peuples, les Roumains, les Polonais. C'était tous des gens qui étaient peut-être des niveaux divers, étaient définis comme inférieurs ou indésirables pour différentes raisons. Et ça fait plutôt que d'éviter de reconnaître sa parenté plan cosmologique ou idéologique avec Hitler, nos élites vont en faire un monstre, vont en faire un personnage extraordinaire, et puis vont justement marginaliser finalement la cohérence que Hitler avait sur le plan idéologique. Puis ça va permettre d'éviter, là, bon, on en parle en termes d'abus du darwinisme et puis tout ça. Mais ça sert des fins précises. Ça sert des fins de marketing idéologique pour éviter là, de voir la parenté finalement idéologique que nos élites partagent, parce que finalement le darwinisme reste dominant. Et puis on fignole toujours un peu le portrait. Là. Bon, le darwinisme est toujours en mutation, toujours en évolution, finalement. Là, depuis Darwin, là, on n'a plus le darwinisme, là, les mécanismes de l'évolution que Darwin prônait ou qui affirmait dans l'origine de l'espèce. Depuis l'époque, bon, on connaît la génétique. Et puis, à chaque nouvelle découverte, on remanie un peu le portrait là, de l'évolution pour rester à jour. Et puis finalement, là, mais sur le plan idéologique, le but, si on peut dire final, le cœur du darwinisme finalement, c'est d'éviter de faire intervenir un agent intelligent hors de la nature.